Grenoble exulte. 75e minute. Le FCG repasse devant de deux petits points. De un petit point, 11 à 10. Il reste 5 minutes à jouer désormais. Le FCG est à 5 minutes de retrouver le top 14. Immense coup de pied.
Quelle fin de match.
Immense fin de match.
Quelle fin de match qui nous attend à 5 minutes là. Il y a quand même la gestion, le stress, la fatigue, la tension. Et
tout. Bah, c'est Romain Trouillou qui l'a pris, pardon.
Romain Trouillou, qui me semble à taper.
Oui, c'est lui. Hein.
Elle était difficile sur les 5 mètres. Quasi à 40, il y a eu quand même la fraîcheur, il a bien traversé ce ballon et puis surtout la concentration de Romain Trouillou qui a mis ses 3 points, qui repasse Grenoble devant à 11 à 10.
12e pénalité de la saison pour Romain Trouillou qui a fait son entrée à la place d'un excellent Julien Hériteau il y a une dizaine de minutes. Et le FCG qui a désormais son destin entre ses mains. Faut-il jouer? Faut-il mettre du volume? Ou faut-il renoncer à ses ambitions en faveur d'un résultat qui pour l'instant est favorable? Difficile de répondre à cette équation quasiment impossible. Retour de Pio Mouaroua, le superbe joueur fidjien qui va faire son retour, qui va remplacer Thibaut Martel. Thibaut Martel, auteur lui aussi de 76 minutes de très haut niveau. Du côté catalan, eh bien, on n'a pas encore renoncé, on n'a pas baissé la tête parce que le lancer à suivre est dans les mains de Seyla Lalame qui a fait son retour et qui va peut-être permettre aux Catalans de réinvestir le camp grenoblois. On est à 40 mètres environ de l'embut du FCG, les locaux qui mènent d'un point. On joue la 76e minute, 4 minutes pour un destin qui se dessine peut-être en top 14 pour l'une des deux équipes, c'est sûr. Et le lancer n'est pas droit. On va repartir sur une mêlée, introduction à suivre pour le FCG. Le 3e ligne Victor Guillaumont qui chauffe le public. Il n'a pas besoin de ça, ce public, pourtant, pour être incandescent. Et dans la fournaise
du stade des Alpes.
Il est sorti, il est rentré. Ah, mais là, ce lancer en fond d'alignement, pas droit. En plus, il y avait le bloc qui était en face de pour le contre.
On est à 4 minutes 30 de l'issue du match. 4 minutes de l'issue du match. 11-10 pour l'instant. Perpignan est en pro des deux. Oh là là, c'est incroyable ce qui se passe.
Sur les joueurs catalans, sur le terrain, ils savent qu'une rampe de lancement comme ça ne peut pas être gâchée de cette façon. Surtout quand il y a 11 à 10.
Et le soleil, soleil rasant qui se couche tranquillement sur le stade des Alpes. Il fait encore bien chaud et c'est surtout dans un volcan, littéralement en incandescence. Et le stade des Alpes qui est bouillant.
Comme il ne l'a peut-être jamais été cette année.
Là, c'est sûr, c'est un record d'affluence, ça coup sûr.
Pour un drop, soit d'un côté, soit de l'autre.
Et pourquoi pas, pour l'instant, le seul joueur qui a réussi un drop du côté de Perpignan cette saison, c'est Valentin Delpy. Et de l'autre côté, Sam Davis en a signé 5. Donc, léger avantage sur le papier, en tout cas, si on en suit ton instinct en faveur du FCG. Le FCG qui mène toujours 11 à 10. On joue la 76e minute. Introduction à suivre pour les Isérois. Grosse poussée catalane qui va gratter une pénalité. De nouveau, énorme poussée de Bruce Deveau. Et la pression sur les épaules de Thomas Zoalan. On est à 40 mètres, légèrement décalé sur la droite. Mais c'est dans les cordes du buteur maison. Thomas Zoalan qui est encore sur la pelouse mais qui a les chaussettes lourdes. Va-t-il céder le rôle de buteur à Valentin Delpy qui est plus léger, qui est surtout plus frais? Eh bien non, c'est l'Italien qui se rapproche du tir. Valentin Delpy qui reste un grand buteur, mais c'est bien
Clément
Thomas
avait
Zoalan
dit que
qui va se
Alan
saisir
allait être décisif aujourd'hui.
Ah. Oui, il prend sa responsabilité. Il prend sa responsabilité, le buteur catalan. C'est lui le maître à jouer, c'est lui le métronome et puis
le
buteur de cette équipe. Ah oui,
il a posé
ça c'est les grands buteurs. Les grands buteurs,
ils sont
préparés à ça.
Pierre.
Il a posé le ballon, il s'est décalé. 3 pas en arrière, 1 pas sur la gauche. La balle est quasiment sur la croix des 15 mètres, légèrement décalé sur la droite du terrain. Le buteur italien qui va s'élancer sous une bronca terrible. Le ballon qui s'élève dans le stade des Alpes et qui va passer entre les perches. Lussap qui repasse devant. Et Lussap qui pour l'instant est en top 14. 77e minute de jeu. Le silence se fait dans le stade des Alpes. Le public dégoûté a fait silence. Mais désormais, c'est à ma droite que l'ambiance monte. Les supports catalan y croit désormais. Sam Davis qui va taper court et on veut récupérer le ballon avec Victor Guillaumont, mais c'est bien capté par les Catalans. Ballon contesté au sol par les FCG.
Au moment où on se parle, Perpignan est en top 14, Grenoble reste en pro D2, Pierre.
Tout à fait, Alexandre, mais il reste encore 3 longues minutes pour peut-être faire la différence du côté du FCG et pour croire encore à un rêve nommé top 14. Valentin Delpy qui va taper très profond dans le troisième rideau, c'est directement dans les bras de Sam Davis qui relance, poussé par 17 000 supporters. La quille qui est montée par le Gallois qui va être dominé dans les airs et ballon récupéré. Delpy qui va taper avec un banana kick extérieur pied droit, mais c'est directement dans les bras du troisième rideau, et l'occurrence celui de Marc Palmier qui va aller jouer sur sa gauche et retrouver Trouillou qui va taper lui aussi très profond dans l'axe du terrain et avec les rebonds avec Thomas O'Hallan, lui qui va prendre tout son temps, monter une quille. C'est à qui gagne désormais parce qu'il faut réussir tous ces jeux au pied. L'escorte qui va être légale. Ah, plaquage haut peut-être ici sur Marc Palmier, mais l'arbitre ne dit rien. Javaka qui a fait tomber le casque et qui passe par le sol. On est sur la ligne des 40 mètres. Attention à la discipline côté catalan. Il reste 2 minutes en apnée à tenir pour les supporters de Perpignan qui nous écoutent et les supporters grenoblois qui vont malheureusement là aussi souffler de dépit parce que la touche est directe. Coup de pied croisé, trop croisé, signé Romain Fusier, l'un des 5 leaders de cette formation grenobloise, et c'est une touche à suivre en faveur des Perpignanais. C'est une équipe catalane perculée de crampes, 3 joueurs sont au sol, on n'en peut plus, le stress est à son maximum. 79e minute de jeu et l'USAP mène de 2 points. L'USAP qui pour l'instant reste en top 14, le rêve grenoblois d'une 3ème accession consécutive qui se refuse est en train de se transformer en cauchemar. Les grenoblois qui, Julien, ont pu vraiment leur destin.
C'est dommage. Ah oui, c'est dommage parce que cette action menée là par les grenoblois, cette attaque de 50 mètres avec les trois quarts de Grenoble, ce coup de pied aurait été mérité d'être plutôt rasant que techniquement que par-dessus et justement directement en touche. Il me semble que c'est Romain Fusier qui l'exécute et qui ne réalise pas bien ce coup de pied. Il aurait été rasant, ça aurait été différent. Tu mets la pression chez les Catalans, tu mets la pression peut-être dans le rug, tu mets la pression déjà territoriale.
Ah, 78-40, est-ce que tu te débarrasses de ce ballon, tu vois, c'est ça aussi la question.
Déjà aussi. Oui, il y a 2 choix.
Et la touche qui va être jouée, je croyais que M. Charabas avait sifflé quelque chose. C'est gagné dans les airs par Van Tonder. On va s'organiser sur un groupe pénétrant. La défense grenobloise obligée de se resserrer. Et le ballon qui est conservé par les Catalans. Il reste 1 minute à tenir pour les Perpignanais et pour le peuple catalan. Pour une délivrance qui tend pour l'instant en leur faveur. Attention avec l'âme qui va aller défier en premier attaquant. On va pouvoir repartir avec une cellule d'avant. Et il va falloir assurer le soutien du côté des Sankeor. Parce que l'USAP est toujours en tête. 13 à 11, il reste une poignée de secondes, 30 désormais, le ballon qui va peut-être être gratté par les grenoblois, non, on va se réorganiser autour d'une cellule d'avant, on ne cherche même plus à progresser du côté de l'USAP. Le contre-ruck avec toute l'énergie, celle du désespoir organisée par le FCG, ils sont 6, 7, 8 à plonger dans le ruck, mais c'est en vain pour l'instant. Les Catalans sur la ligne des 40 qui continuent à pilonner, il reste 15 secondes avant une délivrance et peut-être ici pénalité, avantage en faveur de l'USAP. Perpignan qui va jouer en top 14 la saison prochaine, le cauchemar grenoblois qui se perpétue, 3ème défaite qui se dessine en finale d'accession. C'est terrible pour le FCG, le public dégoûté, et à ma droite vous l'entendez, les supporters catalans libérés, ça pleure de partout sur le terrain parce que oui, le FCG n'aura pas su se révolter les quelques secondes supplémentaires pour essayer d'arracher une victoire. Les Catalans et les grenoblois qui auront été au bout du bout au terrain d'un match de plus de 2 heures, le coup de sifflet la finale est donnée par Monsieur Charabas et c'est la libération pour les Catalans et leurs supporters qui envahissent le terrain. C'est la désillusion.
Incroyable.
Une de plus malheureusement pour le FCG qui connaît un 3ème revers en access match, 3ème revers consécutif. Il n'y aura pas de top 14 pour ce FCG qui pourtant l'aurait peut-être mérité.
Et ça s'est passé sur des coups de pied. Perpignan reste en top 14. Incroyable. Quelle tension on a eu tout le match. Et forcément, on repense à ces coups de pied manqués de Sam Davis en première période. Alors, il n'est absolument pas incriminé, hein, loin de là. Mais on y pense.
Pas
on y pense, franchement.
Terrain, entre malheureusement quelques supporters idiots et Zach Gauthier qui veut se faire justice. Il faut arrêter ça, messieurs. La joie
mais
doit prendre le pas sur la déception.
Un petit peu sur l'année dernière face à Montpellier dans le même registre.
Ça se passe à un point. Un point.
Et oui, c'est incroyable.
Cet access match qui n'accède plus à grand chose.
Finale,
hein.
On n'y arrivera jamais. Et en fait, j'ai l'impression qu'il avait déjà prédit ce qui allait se passer, même en access match. C'est incroyable.
Ils ont presque tout bien fait. Ils ont presque tout bien fait.
Et l'access match qui ne permet plus d'accéder, messieurs, au top 14. Et c'est ça l'enseignement. Victoire de Perpignan face à Grenoble, 13 à 11. Merci de nous avoir suivis sur Sud Radio. Dans un instant, le magazine Champion avec Frédéric Brindel. Et on se retrouve juste après ça pour le deuxième barrage de la saison de top 14. Toulon face à Castres. Le top 14 qui gardera dans ses rangs le club de l'USAP. Allez, à tout à l'heure, on se retrouve dans quelques minutes.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Sud Radio, parlons vrai.
Sud Radio, parlons vrai.
Parlons vrai. Sud Radio.
Parlons vrai.
Dans les années 60, la France construisait un avenir plus ouvert. Révolution musicale, conquête spatiale, émancipation des femmes. En 2025, Renault remet la liberté sur la route avec nouvelle Renault 4. Design emblématique, habitabilité légendaire, désormais 100% électrique et ultra connecté. Découvrez Renault 4 E-Tech électrique, borne de recharge offerte. Portes ouvertes du 12 au 16 juin. Valeur borne 990€ hors taxe, hors installation pour forfait borne plus installation. Offre à particulier du 1er au 30 juin. Conditions Renault.fr. Pensez à covoiturer.
Sud Radio Sarlat.
107.1.
Sud Radio. Sud Radio, le magazine des champions. Frédéric Brindel, Thomas Binet.
Bonsoir à tous. Une valeur sûre de l'histoire de la Ligue 1 de football dans Champion du sport au business cette semaine. Incontournable titulaire de Guingamp, Caen, Nancy. Il est aujourd'hui gestionnaire de patrimoine à Montpellier. Le défenseur, souvent buteur, Rénal Lemaître.
Rénal Lemaître pour le 2-0. On reprend sa marche en avant.
Lemaître du gauche, boum.
Ouais, pareil.
Encore Mazur, oh oui. Et le deuxième but. Le deuxième but.
Bien joué de la part de Rouen, surtout.
Encore une passe décisive d'Anthony de Rouen.
La frappe de Lemaître et ce ballon explosif vient se loger au fond des filets de Mickaël Landreau pour l'égalisation à 3 minutes de la mi-temps.
Ce but de Thibaut Giresse, cela faisait 9 ans qu'il n'avait plus marqué en Ligue 1. Thibaut Giresse bien servi par Lemaître, l'arme parfaite, le retrait plat du pied, enroulé puissant, Hansen ne peut qu'effleurer la balle.
Eh oui, passeur décisif, buteur, ça vous fait presque un ballon d'or. Bonsoir Rénal Lemaître.
Bonsoir, bonsoir, belle présentation pour le départ.
Ouais, on remercie Anthony Urvois, le réalisateur, mais on s'est régalé parce qu'il y a tellement de beaux buts hein, aussi. Bon, quel que soit le club, vous vous êtes imposé comme titulaire, notamment sur le côté gauche d'une équipe. Vous y avoir sur ce côté gauche assurait un retour sur investissement total. Il y a comme une logique à vous retrouver gestionnaire de patrimoine dans votre deuxième vie pour vous challenger notre expert entrepreneurial côté droit du terrain. Puisque en face, hein, ça n'a rien à voir avec le côté.
Je vous remercie, Thomas Frédéric.
Oui. J'avais compris. Si vous voulez être contre, vous êtes à droite et lui, il est à gauche, du coup.
Vous les avez tous perdus, là.
Oui, voilà.
D'accord. Bonsoir, Frédéric. Bonsoir, Rénal. Et bonsoir à tous et à tous.
Rénal Lemaître, finaliste de la Coupe de la Ligue. 15 ans de carrière dans l'élite du football français. 7 buts en Ligue 1. Et c'est un beau score pour un défenseur. Vous voici gestionnaire de patrimoine depuis 2020. Vous êtes notre champion du sport au business.
Sud Radio, le magazine des champions.
Rénald, c'est le premier rendez-vous, le relais, une série de questions sur le lien entre votre carrière de sportif et vos projets entrepreneuriaux. Vous êtes systématiquement un pilier de vos clubs, hein, rappelons-le, Nancy, Caen, Guingamp. Avez-vous le regret de ne pas avoir tenté un rôle de pièce rapportée dans un club à l'étranger ?
Pièce rapportée, non, mais par contre, jouer un rôle dans un club à l'étranger, c'était une de mes volontés en fin de carrière. Ça n'a pas pu se faire, mais sans regret, parce que j'ai connu de bons moments à Guingamp quand même.
Bah, et puis surtout, quand on est un joueur de club, il y a une relation affective qui est très très forte avec le public aussi. Ça, c'est ce qui a fait votre force, Rénald.
Ouais, c'est vrai que le public compte pour beaucoup, que ça soit à Caen, à Nancy et aussi à Guingamp. Bah, c'est vrai qu'on avait un public quand même assez extraordinaire. J'ai vécu de très très belles choses à Guingamp. Je trouve que c'est aussi un public assez à part. Donc c'est vrai que la relation aussi qu'on peut avoir avec le public compte pour beaucoup.
Rénal, la concurrence est féroce en foot et pourtant partout où vous êtes passé, vous êtes devenu titulaire sans être un joueur star. Quelles sont les valeurs qui vous ont caractérisé pour vous imposer ?
Moi, je pense que depuis tout jeune, le travail besogneux, je pense qu'il y avait meilleur que moi. Mais voilà, j'avais cette volonté que d'autres n'ont pas et c'est ce qui fait que je me suis imposé. Après, forcément, j'avais des qualités, Mais comme je dis toujours, il y a toujours meilleur. Et l'aspect psychologique compte pour beaucoup. Et moi, je sais que j'étais un guerrier sur le terrain et je pense que ça m'a permis de m'imposer dans chaque club.
Rénal Lemaître, le footballeur pro, traîne l'image d'un millionnaire protégé financièrement sur plusieurs générations. Vous avez quand même besoin de travailler en tant que jeune retraité et surtout côtoyer des millionnaires. Vous a-t-il formé pour devenir un gestionnaire de patrimoine averti? Donc, un, vous avez besoin de travailler et deux, en plus, vous connaissez les très riches.
Alors, très bonne question. Forcément, durant la carrière d'un footballeur, et ben il faut se gérer. Donc, j'ai appris durant tout le long de ma carrière. J'ai pas fait n'importe quoi. Donc, j'ai su mettre les choses en place aussi par rapport à ça. Derrière, il faut toujours travailler. Il faut toujours des objectifs. Moi, c'est simple. J'ai rejoint mes trois meilleurs amis que j'ai connus au centre de formation à Caen, dans la boîte dans laquelle je travaille. Donc aujourd'hui, sans côtoyer des millionnaires, parce que je vois un petit peu de tout, mais je pense que le travail est important dans la vie de tous les jours.
Vos trois meilleurs amis, on les nomme?
Ouais, on peut les nommer. C'est Julien Valero, Marc Coplo et Baptiste Dumais.
Ouais. Tous d'excellents footballeurs, évidemment. Bon, Rénal Lemaître, place à votre parcours entrepreneurial avec notre expert de la passe en profondeur, Thomas Binet.
Oui, Rénal Lemaître, vous allez disposer d'une minute pour vous présenter ce métier de conseiller en gestion de patrimoine qui n'est pas forcément connu de tous et nous expliquer un peu votre situation actuelle pour qu'on comprenne mieux ce que vous faites et comment vous le faites. Si vous êtes prêt, on lance le chrono, c'est à vous.
C'est parti!
C'est parti. Ben moi, je travaille au cabinet Cap Finance, qui est le plus gros cabinet d'indépendants en France. Pour le coup, on travaille sur plein de domaines de manière diversifiée, qui peut être la transmission, protection de la famille, fiscalité, placement, retraite, ben, plein de sujets d'actualité. Pour le coup, on apporte un conseil. Aujourd'hui, moi, je développe le cabinet qui est sur Montpellier. J'ai commencé aussi en tant qu'indépendant et aujourd'hui, je suis le directeur général du cabinet avec un de mes meilleurs amis, avec qui j'ai développé. Et donc forcément, on est dans le développement. Aujourd'hui, on est 34 et le but, c'est de se développer énormément et puis de pouvoir prodiguer plein de conseils autour de Montpellier dans la région.
Voilà.
J'ai fait mieux qu'une minute.
Oui, bien sûr. Mais bon, vous alliez tellement vite sur votre côté gauche aussi. C'est une habitude, Reynald. Bon, Reynald, nous ouvrons tout de suite la feuille de match. Alors, oui, ça sonne bien parce que la feuille de match est très football, hein, finalement. Thomas Binet. Donc, la feuille de match. Reynald Lemaître, retraité du football professionnel depuis 2017, installe son activité de gestionnaire de patrimoine à Montpellier, même s'il est dans cette grosse structure depuis 2020. Thomas, notre champion, peut déjà compter sur son image de joueur fidèle et altruiste, hein.
Oui, et puis discret, parce que c'est quelqu'un de discret, ça se voit sur sudradio.fr pour ceux qui nous suivent sur le digital. Et c'est important, c'est une qualité première dans le monde de la gestion de patrimoine. Quand on confie ses intérêts économiques à des personnes, on est bien content de leur discrétion. C'est des métiers, vous savez, comme avocat, notaire, on n'a pas envie qu'ils aillent raconter notre vie. Donc cette discrétion naturelle qui est la sienne, plaide pour le métier qu'il fait.
Alors, Reynald, est-ce que vous pouvez nous dire combien gagne? Non, je plaisante. Mais qu'est-ce qui vous a amené à ce métier? C'est un métier de passion ou c'est un métier de circonstance? Comment vous y êtes venu?
De manière simple, déjà, j'y suis venu parce que j'avais la fin de ma carrière. Ou quand on avance un peu moins, on pense à la reconversion. Moi, c'était assez simple. Pourquoi? Parce que j'avais... c'est quelque chose qui m'intéressait déjà à la base. Parce que quand on touche de l'argent en tant que joueur, on fait des erreurs quand on est jeune. Et puis derrière, on apprend. Et puis on apprend de ses erreurs. Et puis on essaye de se renseigner. À côté de ça, j'avais trois de mes meilleurs amis que j'ai expliqué, qui étaient déjà au sein du cabinet. C'est vraiment... On est trois frères, en quelque sorte. Enfin, quatre avec moi. Et ils étaient déjà au sein du cabinet Cap Finance, à la maison mère qui était à Rouen. Et moi, j'avais cette volonté de vouloir les suivre. La gestion de patrimoine m'intéressait. Alors, j'étais pas non plus un pro sur ce domaine-là. J'avais quelques connaissances, mais je me suis lancé en tant qu'indépendant dans ce groupe qui a complètement explosé. Je crois un ou deux ans après que je sois arrivé, et puis s'est développé au niveau national. C'est comme ça que je suis arrivé. C'est par aussi le biais de mes amis. C'est grâce aussi à eux.
C'est une belle rencontre et une belle opportunité. Le marché de gestionnaire de patrimoine, Thomas Binet, beaucoup de gens font ça, il y a une grosse concurrence.
Alors, c'est un marché, effectivement, c'est un marché solide et qui est en croissance.
Ouais.
On peut considérer qu'en France, il y a environ 5 à 6 000 cabinets indépendants ou rattachés à des réseaux de fameux CGP, hein, l'acronyme qui veut dire conseiller en gestion de patrimoine en France. Je vais pas vous rentrer dans les chiffres des actifs qui sont gérés parce que c'est des chiffres, bon d'abord, qui font tourner la tête. Si je vous le donnais quand même, c'est 200 milliards d'euros. Mais ça représente beaucoup et pas grand-chose au regard des personnes. Mais c'est surtout un marché qui est en croissance, hein, autour de 5 à 7% par an. Bah ce marché est en croissance grâce à quoi ? L'épargne des ménages, les préoccupations liées à la retraite, à la transmission, à l'inflation, hein, les problèmes qu'on a rencontrés également en France, la complexité fiscale croissante. Quand même compliqué de faire toutes ces déclarations, etc.
Oui.
Bon, de se retrouver. En fait, très concrètement, les Français ont peur de l'avenir, donc ils épargnent. C'est le basique du métier de CGP. Grâce à cette peur, eh bien, il y a un marché derrière.
Est-ce que, Reynald Lemaître, depuis, allez, on va dire 2020, où vous entrez à Cap Finance, vous avez senti finalement une demande encore plus forte pour vos métiers ?
Pas forcément. J'avais pas forcément connaissance de ça au tout départ. On le ressent de plus en plus parce que à force de voir des personnes, des prospects qui deviennent clients, on s'aperçoit que souvent ils n'ont pas de solution, ils sont pas forcément conseillés parce que je pars du principe que c'est aussi un aspect de confiance quand on travaille avec une personne. Et surtout aujourd'hui, le conseil est primordial. Beaucoup de personnes ont mis des choses en place, ça a été de la vente de produits, il y a pas de suivi, il y a rien derrière. Et ça, c'est préjudiciable pour les clients. Donc c'est vrai, c'est ce qu'on prône un petit peu nous au cabinet. Et c'est pour ça que d'ailleurs ça fonctionne très bien, c'est que le suivi, c'est un point qui est un élément qui est moteur chez nous. Et puis apporter du bon conseil et puis atteindre les objectifs de nos clients, c'est ça qui est important.
Thomas Binet, donc on l'a bien compris, hein, c'est une clientèle aisée, mais
pas forcément.
Alors justement,
non. Alors évidemment spontanément, on peut penser que ce sont des gens aisés. Alors les gens aisés, ils vont pas d'abord. Il y a des distinguos à faire dans les termes. Hein. Ils vont pas forcément vers les gestionnaires de patrimoine, ils vont aussi vers des gestionnaires de fortune dans ces cas de situation. Pour les gestionnaires de patrimoine, c'est beaucoup plus large, si vous voulez, en termes de clientèle. En fait, ce sont des gens, et Renan nous l'a dit à l'instant, qui ont besoin de conseils. Vous avez pas beaucoup d'argent, mais vous voulez bien le placer. Et on va pas forcément vers son banquier. On veut aussi avoir quelqu'un d'un peu plus neutre. Si vous voulez, c'est la différence avec le banquier. Le banquier va vous placer dans ses produits à lui. Alors que là, on est dans une situation où il peut travailler avec différents acteurs, notre conseiller en gestion de patrimoine.
Voilà le son du buzzer. Celui qui annonce la mi-temps de champion du sport au business. Dans un instant, donc, Thomas Binet conseillera notre invité, Reynald Lemaître. Oui, ou quand une valeur sûre de la Ligue 1 de football, vous en souvenez, le Guingampais, le Canet, quand une vedette de la Ligue 1 de football gère sûrement et avec expérience le patrimoine des plus aisés, ou pas forcément, vous venez de le
Absolument.
Dire. D'ailleurs, c'est sur Sud Radio, on rentre dans le vif du sujet dans un instant. À tout de suite.
Sud Radio, parlons vrai.
Sud Radio, parlons vrai.
Parlons vrai. Debar Automobile, fier supporter du rugby. Retrouvez nos meilleures offres et l'esprit d'équipe dans nos concessions. Debar Automobile, votre partenaire de confiance. Sud Radio à Brignoles en DAB+.
Sud Radio. Recruter une personne de plus de 50 ans ? Jamais de la vie.
Ah, moi, c'est la meilleure décision que j'ai prise. J'ai recruté Sophie, 55 ans, pour être vendeuse dans mon magasin. Grâce à son expérience, elle donne des conseils très pertinents et elle sait s'adapter aux besoins des clients.
Comptons sur l'expérience des 50 ans et plus. Recrutement, formation, accompagnement. Rendez-vous sur emploi50plus.gouv.fr. Ceci est un message du gouvernement.
Sud Radio, le magazine des champions. Frédéric Brindel, Thomas Binet.
Deuxième mi-temps de votre émission champion du sport au business, comme tous les samedis en début de soirée sur Sud Radio. Notre champion entrepreneur invité est un ex-footballeur de l'élite française, le latéral gauche notamment de Guingamp et de Caen, Reynald Lemaître. Aujourd'hui gestionnaire de patrimoine à Montpellier, rappelons les contours de son développement entrepreneurial, cher Thomas Binet.
Oui Frédéric, comme vous venez de le rappeler, Reynald Lemaître a commencé comme gestionnaire de patrimoine. Il est aujourd'hui à la tête d'une filiale du groupe Cap Finance qui est à Montpellier. Le groupe, lui, est originaire du nord de la France. Il dirige un cabinet donc à Montpellier, qui compte 34 collaborateurs. Ça, c'est déjà quand même une certaine taille. Et puis, bah, c'est quoi un gestionnaire de patrimoine? Rappelons pour ceux qui nous rejoignent maintenant, bah, il s'occupe d'accompagner ses clients pour tout ce qui relève de la transmission, de la fiscalité, du placement, de la retraite, bref, de l'épargne des Français. Comment bien placer son argent pour qu'il nous rapporte intelligemment?
Raylan Lemaître, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais quand même rappeler que vous avez terminé votre carrière de footballeur en 2019 à Tahiti, dans le modeste club de l'AS Dragon. C'était des vacances anticipées un an avant d'entrer dans la société Cap Finance, spécialiste de la gestion de patrimoine.
Alors ouais, ça s'est fait un petit peu par hasard, j'ai envie de dire. Pourquoi ? Parce que moi, j'avais déjà déménagé à Rouen, où je savais que j'allais commencer mon activité. Je voulais prendre une année sabbatique pour un peu me reposer. Ma dernière année à Guingamp, c'était pas très bien effectué. J'avais pas fait de match, donc un certain regret. Et puis j'ai Marama Vaiura, que j'ai joué à Nancy, qui m'a contacté. Ouais. Voilà, Marama qui m'a contacté, qui m'a proposé de faire la Ligue des Champions de l'Océanie. Il m'a proposé de venir pour faire, parce que c'était les qualifs en quelque sorte, pour aller sur les phases finales. Et donc j'ai accepté et donc j'ai pris l'avion. Je suis allé pendant un petit peu plus d'un mois chez lui. J'ai vécu chez lui et puis j'ai fait les différents matchs à Tahiti.
Oh, c'est beau ça. Sacrée famille de footballeurs, les Vaiura, hein, Nantes, Auxerre, etc., etc. Allez, place au coach.
Sud Radio, le magazine des champions.
Thomas Binet, Raynald Lemaître, gestionnaire de patrimoine à Montpellier, doit imposer son entreprise sur un marché d'hyper experts. Rappelons-le, il est au début donc de cette structure à Montpellier, hein.
Oui, d'hyper experts, parce qu'effectivement, c'est un marché où il y a un certain nombre, on l'a dit tout à l'heure, de gestionnaires de patrimoine, qui a une concurrence indirecte aussi par les banques, hein. C'est d'autres acteurs, ils peuvent être pourvoyeurs de solutions, mais aussi concurrents pour le cabinet de Raynald. Après, il a aussi une implantation locale, il a 34 collaborateurs, je le rappelais il y a un instant. Donc, vous imaginez déjà la taille du cabinet, c'est quand même déjà satisfaisant.
Ouais. Comment ça se développe? Est-ce qu'on peut faire un premier bilan? Ça fait deux saisons, donc finalement, Raynald, comment se développe l'activité?
Mon activité, alors vous parlez de mon cabinet?
Oui, oui, tout à fait, à Montpellier.
Alors, ouais. À Montpellier, tout simplement, quand on a commencé, on était deux, donc forcément,
ouais.
On a essayé de chercher des partenaires, donc c'était pas évident au début, mais on a cherché des partenaires, on les a formés sur le terrain, on les a accompagnés, et puis le but c'est de pouvoir qu'ils soient autonomes, tout simplement, et puis à force d'eux, forcément ça fait 5 ans qu'on est sur Montpellier, on est 34, j'ai envie de dire que on peut être beaucoup plus, hein, on peut être 90 ou même 100, parce qu'il y a des structures... à Cap Finance, où je prends l'exemple de Rennes, Nantes confondues, ils sont à un peu plus de 200. Donc j'ai envie de dire, il n'y a aucune limite par rapport à ça, parce que à côté de Montpellier, on va avoir Marseille, on va avoir Avignon, on va avoir des belles villes aussi qui sont assez porteuses, sur qui on peut apporter des conseils. Donc le développement, il est illimité. Donc la manière dont on le développe, tout simplement, on fait pas mal de conférences. D'ailleurs, j'en fais une ce soir pour proposer et expliquer un petit peu notre métier pour savoir si ça peut correspondre à certaines personnes.
Mais justement, Raynald, donc on est d'accord, Montpellier, mais ça veut dire que votre agence est censée couvrir quoi? Tout le Grand Sud ou l'Occitanie ou quoi exactement?
Non, alors nous on n'est pas sectorisé au sein du cabinet. On travaille uniquement par la recommandation.
Ah oui.
On est capable d'agir forcément dans notre secteur, mais par contre, si on a une recommandation qualifiée, que ça soit à Paris, dans le nord de la France ou même un petit peu plus loin, on a toutes les passerelles pour pouvoir lui prodiguer des conseils, que ça soit en visio, on a la signature électronique, on a tous les éléments pour pouvoir le suivre. Donc nous, on n'est pas du tout sectorisé, c'est que la recommandation qui nous emmène à aller voir nos prospects.
Alors ça, c'est super intéressant, Thomas Binet. Quelles sont les recommandations finalement pour développer quand on est gestionnaire de patrimoine? Parce que vous nous avez dit concurrence, finalement, on peut aller partout et pour tout le monde. Ça fait beaucoup quand même, hein.
Bien faire son travail, Frédéric, parce que Raynald vient nous le dire, c'est de la recommandation. La recommandation, c'est de la cooptation, c'est du bouche à oreille, c'est une forme de parrainage. Donc en fait, concrètement, on va pas chez un gestionnaire de patrimoine comme on va chez son boucher ou son boulanger du coin de la rue. C'est, on va chez des gens parce qu'on vous les a recommandés.
Ah oui.
Et pourquoi on les recommande? Parce qu'on en est satisfait. Donc ça veut dire que, globalement, son potentiel de client est à travers ses propres clients. Un client satisfait peut vous en ramener 10. Vous voyez l'échelle de valeur que ça peut donner derrière? C'est là-dessus qu'il va falloir travailler. Donc, la première des choses, et là, c'est pas de la pub, Vraiment, c'est le cœur du système, c'est comment réussir à bien faire son travail, donner satisfaction. La première des satisfactions, c'est le suivi et évidemment les résultats. C'est est-ce que avec vous, je fais de bons placements. Mais il y a quand même pas que ça. Il y a aussi, avons-nous en face de nous de bons interlocuteurs. Dans une période où on nous parle beaucoup de chat, de robots, de voix synthétique, il y a beaucoup de néobanques qui fonctionnent comme ça. Eh bien, vous avez des gens en face de vous, l'humain reprend sa valeur, paradoxalement avec l'époque que nous vivons. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très important. Et un bon gestionnaire de patrimoine, c'est quelqu'un qui est à l'écoute de ses clients et qui les accompagne. Et de facto, ça entraînera un développement.
Ce que de toute évidence vous êtes, Reynald Lemaître, bon gestionnaire de patrimoine, vous avez appris en combien de temps et c'est quoi être bon dans ce domaine ? Alors vous nous avez dit travailleur, c'était l'intérêt de la fameuse séquence le relais, comment on passe du monde du sport à l'entrepreneuriat, mais vous avez potassé.
Alors oui, déjà j'ai fait une formation quand j'étais à Guingamp en fin de carrière, je savais que j'allais faire ça, donc j'ai fait une formation de conseiller en gestion de patrimoine avant de commencer, sachant qu'il y a quand même une formation interne au sein du cabinet. Moi, ma formation, elle avait duré 2 mois. Et ensuite, là où on apprend le plus, de toute manière, c'est sur le terrain où j'ai pu aussi être accompagné et guidé sur mes débuts. Donc ça, c'était super intéressant. Après, bah forcément, qu'est-ce qui nous fait progresser ? C'est la force de travail. C'est forcément être curieux, lire, suivre un peu l'actualité. Ça va être super important. Et ensuite, quand on est en rendez-vous, qu'est-ce qui va nous faire fonctionner ? Moi, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Déjà, l'aspect de confiance, ça c'est important. Mais que forcément, toutes nos préconisations qu'on va donner à nos clients, ça soit très simple, très ludique, très éducatif, qu'ils puissent vraiment tout comprendre. Et dans quel sens ils le font et pour quel objectif.
Eh oui.
Moi, c'est ça qui va être important.
Faut
c'est
être pédagogique, quoi, en fait. Faut être pédagogique.
Absolument.
Faut être, exactement. C'est ça qui est le plus important.
Bon, Thomas Binet, alors habituellement avec nos champions du sport au business, vous leur demandez de développer, parce qu'en plus c'est votre spécialité, vous l'ancien grand publicitaire, c'est-à-dire vous leur demandez de développer la communication. Là c'est une communication particulière, mais quand même, tout ce qui est réseaux sociaux, ça, il faut le développer ou pas ?
Oui, on peut le faire, c'est pas forcément à mon sens le prioritaire. Je pense que on l'a dit, c'est travailler sur ses clients. Alors, bien travailler ses clients, mais on peut avoir aussi un peu effectivement de capacité de communication. Il faut faire quelquefois des rendez-vous différents et on peut faire une soirée annuelle. Enfin, il y a une façon d'animer son réseau de clients et quelque part d'accepter qu'à travers une forme de fidélisation, il y aura une conquête. Moi, je rappelle juste une chose quand même qui est importante. Nos clients, il y a 2 manières de pouvoir travailler avec eux. En leur permettant de nous amener certaines de leurs connaissances, je l'évoquais tout à l'heure, mais aussi en développant leur propre portefeuille. C'est de la conquête sur la fidélisation. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin toujours de nouveaux clients, on peut faire développer aussi leur portefeuille. Au début, on teste son gestionnaire de patrimoine, et puis après, on lui fait de plus en plus confiance, voire tout lui confier.
Bon, il y a 2 éléments importants. C'est Reynald Lemaître est un ancien joueur de Ligue 1. Alors évidemment, il est pas aussi connu que Kylian Mbappé ou Ousmane Dembélé, mais il compte. Et pour tous ceux qui sont passionnés de foot, Reynald Lemaître, c'est quelque chose. Et puis, il est à Montpellier. Alors, déjà, pourquoi Montpellier précisément ? On a une pensée pour les Montpelliérains qui descendent en Ligue 2. C'est la mauvaise année pour parler de foot à Montpellier, là, désolé. Mais pourquoi Montpellier ? Il y avait un intérêt par rapport à un lien avec le foot ou pas du tout ?
Alors, un petit peu. Pourquoi ? Parce que mon meilleur ami avec qui je suis descendu, Julien Valero, qui était aussi ancien joueur, il a joué un petit peu en Ligue 1, un petit peu en Ligue 2, beaucoup en National. Et lui, il a joué à Nîmes, il a joué à 7. Donc forcément, il a eu une accroche quand même dans le Sud. Et c'est vrai que nous, dans notre développement, quand on a pu créer un cabinet, on a voulu tout de suite aller dans le Sud pour pouvoir y vivre. Parce que je pense que vous comprenez que
ça va,
un peu meilleur que
D'ailleurs, on s'appelle Sud Radio pour ça, même si nos studios sont à Paris, mais on s'appelle Sud Radio.
D'ailleurs, c'est la question que je voulais vous poser. Pourquoi Sud Radio
Alors, on fera une émission champion dans l'autre sens, effectivement.
Et donc, Montpellier, c'était la ville idéale parce que c'est entre Nîmes et 7, en fait, tout simplement. Puis on a fait la demande à nos PDG que ça a été accepté. Puis on est descendu, sur Montpellier.
Bon, Thomas Binet, il faut alors votre fameuse phrase hein, qui nous a accompagné toute l'année, le savoir-faire et le faire savoir. Il faut faire savoir quand même que ce sont des anciens footballeurs de Ligue 1 et qui savent un petit peu comment ça se passe, ce genre de choses.
Oui, et puis j'imagine qu'il y a déjà pensé, mais ça peut se travailler encore aujourd'hui, c'est de travailler effectivement cette niche de footballeurs ou d'anciens footballeurs qui ont besoin. On a tous quand même en mémoire Bruno Bellone, champion d'Europe 1984, qui a tout perdu et qui n'a dû son salut
en foot alors finalement.
Ouais, vous imaginez pas. Ouais. Et qui a dû son salut simplement à Gentilgana, parce que sinon il serait vraiment ruiné aujourd'hui. Bon, donc ça veut dire que ça n'arrive pas qu'aux autres. On a des bons exemples comme celui que je viens de vous donner qui démontrent que être prévoyant, bah ça se prépare. Et Reynald l'a évoqué, il l'a préparé alors qu'il était encore footballeur. C'est pas simplement l'après. Donc c'est il y a tout un cheminement à avoir en tête.
La relation avec les footballeurs, conseillers en gestion de patrimoine de footballeurs, c'est forcément un axe de développement pour vous, Reynald.
Ouais, forcément. Moi, je vois des footballeurs professionnels. J'en ai vu. Je connais les problématiques aussi. Vous avez bien compris, parce que j'ai vécu dedans. J'ai beaucoup d'amis aussi qu'ont fini leur carrière et qui ont plus rien parce qu'ils ont forcément mal géré par rapport à leur patrimoine. Donc c'est vrai que moi, c'est des choses qui m'intéressent fortement, justement, d'aller voir ces joueurs, de leur prodiguer des conseils, les erreurs que certains ont pu commettre ou j'ai pu commettre, leur mettre en avant pour pas qu'ils puissent les commettre à leur tour. Donc ça, c'est des choses aussi que je développe et que, outre, parce que j'ai d'autres choses aussi à faire dans le développement de mon cabinet, mais moi, c'est des choses que j'apprécie. Quand je vais voir un joueur, je me régale et je prends du plaisir à les voir.
Et voilà, la photo finish. Reynald Lemaître, ex-footballeur, plus de 300 matchs joués en professionnel, 7 fois buteur malgré son poste de défenseur latéral en Ligue 1. Désormais gestionnaire de patrimoine. Thomas Binet nous rappelle les préconisations, c'est
principal,
bien parti. Hein.
Principal, ouais. C'est entretenir son réseau, parce que c'est vraiment de la cooptation, c'est du relationnel. Donc travailler sur son réseau, et grâce à son réseau, faire de la conquête.
Thomas Binet, rendez-vous même heure la semaine prochaine. Merci et bravo Reynald Lemaître. Faites-nous un centre millimétré pour placer intelligemment tout le patrimoine de notre émission Champion du sport au business. Hein, vous savez qu'on accumule, nous. Hein. Merci à vous.
Merci, merci, c'est gentil. Merci pour l'invitation.
Et un clin d'œil à notre réalisateur Anthony Hervois, Elvin De Fazio, qui s'occupe des relations avec le numérique.
Total Energy, partenaire officiel du Top 14, vous présente
Sud Radio, la radio du rugby. Le Top 14, Alexandre Priam.
Le Top 14 sur Sud Radio, au sein duquel Perpignan va rester suite à son succès à Grenoble 13-11. Il en a fallu de peu pour que le FCG accède à l'élite, mais ça s'est joué encore une fois très peu de choses au Stade des Alpes pour la troisième année consécutive. Évidemment, ce soir, le grand temps fort, c'est sous Toulon Castres. On va tout de suite du côté de Mayol faire un petit coucou à Mathias Merlot. Salut Mathias.
Salut mon Alex, salut tout le monde, bienvenue dans la chaude ambiance de Mayol.
Alors il paraît que l'escalator fonctionne, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire?
Il fonctionne, donc c'est très bon signe pour les Rouges et Noirs cette histoire. C'est la légende de Mayol qui veut ça. Eh ben, comme vous le savez, donc Mayol c'est un stade, mais aussi un centre commercial qui est juste à côté du stade. Et donc dans ce centre commercial il y a un escalator. Et paraît-il, la légende depuis des générations et des générations fait que quand cet escalator fonctionne, ce qui est plutôt rare, c'est très bon signe pour le RCT, c'est souvent synonyme de victoire. Donc ce matin, il y a quelques supporters varois qui sont allés voir l'escalator, ils l'ont pris, il fonctionnait. Donc généralement, c'est bon signe pour le RCT.
Ça, c'est plutôt drôle. Et voilà, on s'accroche à tout hein, du côté de Toulon. Et l'arrivée des joueurs a été tout à l'heure quand même assez exceptionnelle. Énormément d'ambiance autour de Mayol.
Ouais, exceptionnel par les Castrés et par les Toulonnais, deux publics qui se sont fait face pour l'arrivée tout d'abord des Castrés, des Tarnais qui sont arrivés avant les Toulonnais, puis après bien évidemment la bande à David Ribbon. C'est voilà, dans une superbe ambiance, chacun poussé pour son équipe, à motiver avec quelques fumigènes du côté du Castres Olympique, des supporters du Castres Olympique, mais ça a donné le ton, sachant qu'en avant-match c'était plutôt les supporters du CO qui étaient plutôt en verve avec leur traditionnel tambour et qui ont mis une chaude ambiance dans Toulon, notamment participant à la marche des fiertés. Donc voilà, ils se sont chauffés la voix avant d'arriver à Mayol lors de cette marche des fiertés boulevard de la République.
Coup d'envoi 21h05, mais avant match dans quelques instants sur Sud Radio. Mathias, reste avec nous, on va revenir évidemment sur ce match entre Grenoble et Perpignan. On rappelle un peu la physionomie de cette rencontre, Clément Combes, un match fermé avec très peu de points inscrits, une véritable finale.
Ouais, une véritable finale avec dès la première minute,
peut-être le plus beau mouvement offensif de la saison de Perpignan, et cet essai conclu par Tavitier Veredamou au bout de même pas 2 minutes de jeu. Derrière, une première mi-temps extrêmement longue, coup d'envoi 18h, fin de la première mi-temps à 18h58. C'est énormissime pour un premier acte. D'ailleurs, le match a duré plus de 2 heures, énormément de tension et simplement des coups de pied par-ci par-là, des coups de pied de pénalité qui viennent permettre de gonfler très légèrement le score. Pas grand chose en deuxième période, des arrêts vidéo, des water break, beaucoup de tension et du jeu haché jusqu'à des coups de pied ratés de Sam Davies et 2 pénalités cruciales de la part de Thomas Soalan, dont une à 2 minutes de la fin de la rencontre à la 78e pour permettre à l'USAP de se maintenir en top 14.
Et on va en parler justement avec Jean-Charles Orioli. Bonsoir Jean-Charles.
Bonsoir.
Ancien talonneur de Grenoble, présent au Beach Rugby 5 dont Sud Radio est partenaire à Marseille. On vous a vu avec Laurent Cardona, notre ancien consultant. Comment ça se passe? Comment ça s'est passé du côté de Marseille aujourd'hui?
Génial. Une belle journée sous le soleil sur les plages du Prado à Marseille pour le 25e événement du Beach Rugby. Donc j'étais parrain, donc très fier. Une belle journée.
Et on est aussi avec Olivier, auditeur de Béra, supporter perpignanais. Salut Olivier.
Salut Alexandre.
J'imagine heureux Olivier, hein, heureux du maintien de Perpignan.
Ouais, mais en définitive plus soulagé qu'heureux en fait, parce que c'était irrespirable. Mes collègues là, ils hésitaient à aller me chercher le défibrillateur à la mairie et j'étais d'un état épouvantable, parce qu'il faut se rappeler que l'access match est extrêmement cruel, quoi. Et puis il faut se rappeler, comme disait David Marty en début de semaine, qu'entre une équipe qui a survolé le top 4, la Pro D2 toute la saison et une équipe qui a fini 13e de top 14, en fait il n'y a pas beaucoup, et Grenoble est extrêmement valeureux. Et nous, je crois que ce match, il nous a montré qu'il y a une équipe qui jouait pour pas perdre et une équipe qui jouait pour gagner, avec en plus, j'y reviens, la cruauté de ce truc, parce que en définitive, quand tu perds un match de phase finale, tu te dis l'année prochaine je ferai mieux. Là c'est comme dans la pub pour l'assurance, là, hop, oubliette, au revoir et merci. Et comme dirait Philippe Spanghero, le modèle fait que tu sais jamais quand tu pars, quand tu vas revenir. Regarde Brive avec un projet solide, Grenoble qui est dans la gangue, dans le sable mouvant de la Pro D2, qui aurait pu en sortir, c'est une véritable sanction, un départ vers l'enfer. Donc oui, extrêmement soulagé, surtout compte tenu de la physionomie du match qui une fois de plus était irrespirable. On s'attendait à mieux, surtout avec ce baisse d'entrée. Surtout
justement, tu utilises le mot cruel et cruauté, Jean-Charles Orioli. Toi, vous qui avez joué à Perpignan pendant 3 ans, c'est la 3e année consécutive à Grenoble, pardon. Oh là là, le lapsus. À Grenoble, durant 3 ans, 3e défaite en consécutive en access match pour le FCG. Là aussi, c'est cruel.
Oui, c'est terrible pour cette équipe, parce qu'en 3 ans, il y a 6 possibilités de monter en top 14 et on n'y arrive pas, quoi. Et je sais que cette année c'était la bonne, avec un championnat qu'ils ont dominé de la tête et des épaules, avec une finale qui était plus qu'abordable pour eux contre une équipe de Montauban. Et voilà, ils perdent cette finale la semaine dernière. Ils ont cette chance aujourd'hui de pouvoir monter. Et je pense que l'enjeu a un peu gâché ce match, parce que c'était pas un super match de rugby, alors que les deux équipes nous ont habitués à mieux cette année. Autant Grenoble en Pro D2 que même l'USAP qui joue un beau rugby. Aujourd'hui, je crois qu'il y a plus d'une vingtaine d'en avant, des scories, des coups de pied manqués, des coups de pied directs en touche. C'était pas un super bon match de rugby, mais voilà, à la fin, le sort donne la victoire à Perpignan.
Est-ce que c'est injuste pour le club qui passe sa saison leader de Pro D2, qui vraiment est meilleur que tout le monde et qui échoue à la fois en finale de Pro D2 et à l'Access Match?
Oui, je pense que c'est, il y a un côté quand même, il y a quand même d'injustice dans le format de la des phases finales. Je pense que moi, le premier le premier de la phase régulière devrait monter et que les phases finales devraient se passer entre le second et le septième pour jouer l'access match, parce que on voit de toute la complexité de créer une équipe de top 14 alors que Montauban ils savent que depuis une semaine qu'ils vont monter, donc pour recruter, pour attirer des joueurs c'est très compliqué. Donc on voit que les équipes qui montent redescendent bien souvent, donc voilà, c'est dur. Alors que si Grenoble savait qu'ils pouvaient monter dès le mois de février ou mars, qu'ils étaient bien placés, ils peuvent commencer à aller chercher des joueurs, des budgets pour essayer de se maintenir en top 14. Mais voilà, les règles du jeu, on les connaît avant de jouer. On savait qu'il fallait soit champion, soit gagner l'access match pour monter. Et ce qu'a pas réussi à faire Grenoble une nouvelle fois cette année, quoi.
Ouais, ouais, forcément. Et ce qui devait faire peur à Olivier, parce que on sent que quand on descend en Pro D2, ça devient de plus en plus dur de remonter en top 14, hein, Olivier.
Ouais, complètement. Je vous dis, hein, je te dis, parce que bon, on voit avec Grenoble, on voit aussi avec Brive qui pensait vraiment faire un autre truc, qui s'est armé considérablement, et puis totalement d'accord avec Jean-Charles, parce que à la fin, t'as dominé la tête et des épaules, tu as matière à être, t'as gagné tous les matchs à l'aller au retour, t'as manière à être couronné, t'as matière à aller effectivement t'équiper de joueurs qui seront à même de bien figurer en top 14. Économiquement, la Montauban va aller se servir, on va lui dire, allez, va au frigo, regardez ce qu'il y a, ben, le frigo, il est vide, quoi. Voilà. Donc, c'est un peu complexe, et puis c'est un peu injuste, parce que c'est, on sait qu'un match phase finale, c'est pas un match comme les autres, on sait que tout peut arrivé. Il y a quelques années, Castres 6e était champion, tant mieux. Que là, c'est Montauban qui est 6e, qui est champion, tant mieux aussi pour eux. Mais ça couronne pas la régularité, le niveau et encore une fois la possibilité qu'on a de structurer une montée pour qu'elle soit viable. Parce qu'après, effectivement, tu peux être amené à faire l'ascenseur. Bon, il s'en est fallu de peu pour Vannes, mais jusque-là, tu avais pas mal d'équipes qui avaient fait l'ascenseur. Je crois qu'il faut, c'est absolument facile à dire comme ça, mais je crois qu'il faut réfléchir à ces aspects, ou alors peut-être faire carrément, mais non, c'est inentendable, sauf à ce que l'USAP soit dedans, mais un championnat fermé, comme il y a, s'il y a un championnat fermé, je veux bien, mais à condition que l'USAP soit dedans, parce que sinon, en Super League, ils examinent les comptes, les effectifs, les structures, ils disent voilà, si c'est fermé, et puis s'il y a un club qui gringole un peu, et ben, éventuellement, on verra pour faire monter quelqu'un d'autre. Mais c'est vrai que ça biaise un peu, ça les dés sont pipés pour la saison qui suit derrière, quoi.
Ouais, c'est vrai qu'on sent que c'est très très compliqué. Merci beaucoup Olivier d'avoir été avec nous, c'est toujours un grand plaisir de t'avoir sur Sud Radio, on adore ta passion pour le rugby et merci d'être un aussi fidèle auditeur, Olivier.
Eh ben, moi aussi, c'est un immense plaisir de vous écouter, un encore plus grand plaisir d'échanger avec vous, et puis ce soir je vais dormir sur mes deux oreilles, hein. Enfin.
Bah c'est bien, pas de fête quand même, pas un peu de fiesta,
non? Non, moi je devais aller à Grenoble, mes impératifs personnels et professionnels m'en ont empêché. Peut-être lundi j'irai embrasser sur le front mon dentiste avec qui j'ai rendez-vous, parce que il s'appelle Vincent Blatko-Baquet et qu'il m'a permis que le premier essai soit annulé pour un an avant. Voilà.
C'est incroyable.
Tu l'as pas fait habiller quand même. Non mais stop, c'est incroyable cette histoire. C'est fou cette histoire. C'est Blatko-Baquet, l'arbitre dont tu nous parles.
Oui, c'est mon dentiste. D'accord. Et je le vois lundi après-midi, je vais lui faire un gros bisou sur le front.
Ah, quelle histoire de fou. Oh là 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 là. Incroyable. C'est super. Bah bravo à toi. Merci Olivier pour ça et on te retrouve la prochaine fois avec grand plaisir. On est toujours avec Jean-Charles Orioli. Et on accueille sur Sud Radio Pierre Bernard, qui a connu évidemment Jean-Charles sur ta dernière année, je crois, à Toulon. Jean-Charles, on va parler évidemment de ce Toulon-Castres, parce que bon, Jean-Charles Orioli né à Toulon, né à Châtillon, mais formé à Toulon, et début chez les pros jusqu'en 2017, et on accueille donc Pierre Bernard. Bonsoir Pierre, Toulousain pour le coup, né à Toulouse, formé à Toulouse, mais un passage à Toulon quand même qui aurait été marquant, et un passage à Castres aussi, évidemment, 2010-2013, du côté du club Tarnais. Qui est clair favori ce soir? Est-ce qu'il y a un clair favori ce soir, Pierre?
Bonsoir. C'est une vraie position de style, hein, qu'on a en... Pour moi, les Toulonnais, sur leur saison, font un peu figure de favoris. Ils ont juste eu un coup de moins bien depuis le quart de finale de Coupe d'Europe contre Toulouse, qui les a mis dans le dur, je trouve. Mais après, ils ont un effectif et pour avoir discuté avec des joueurs qui jouent encore, notamment ils ont un paquet d'avant très puissant qui fait peur à beaucoup d'équipes. Pour moi, ça match avec avec l'UBB, avec le Stade Toulousain. Et après, de l'autre côté, on a le CO que j'ai bien connu, qui sont dans leur position favorite, c'est-à-dire ils ont terminé sixième, ils font pas de bruit. Ils ont le côté émotionnel avec la mort de Josh qui.
Il y a rien à perdre hein, pour Castres. Hein.
Comment?
Il y a rien à perdre pour le CO. Hein.
Oui, tout à fait.
Pas beaucoup de pression.
Il y a rien à perdre et c'est un peu leur spécial. Je les connais parce que j'étais un match contre Vannes cette année. J'ai rien pu changer avec eux. Ils adorent cette position là.
Jean-Charles Orioli, est-ce que ce statut de favori quand même, qui est bon, assez clairement sur les épaules de Toulon, ça peut faire vaciller l'URCT ou on est prêt pour ça dans le Var?
Alors, je ne sais pas si on est prêt, mais oui, Toulon est clairement favori déjà du fait de jouer à Mayol. Après, je pense que les Toulonnais se méfient énormément de cette équipe de Castres qui ont la réputation d'être une équipe pénible à jouer, ce qui fait leur force depuis de nombreuses années avec un cœur énorme. Et je pense que qu'ils soient favoris ou pas, les Toulonnais vont tout faire pour essayer de franchir ce palier et aller en demi-finale. Après, j'ai envie de dire, si on bat pas Castres à Mayol, on mérite pas d'être en demi-finale de top 14. Donc voilà, ça va être je pense que ça va être un gros match, ça va être serré. Je pense que Castres, ils vont essayer de rester dans le match le plus longtemps possible pour essayer de faire douter Toulon à Mayol, parce qu'on sait que Mayol c'est très fort, mais qu'on arrive à la 60e, 70e et que si Castres colle au score, ça peut être un poids pour les épaules des Toulonnais, quoi.
Alors on est avec Mathias Malo en direct de Mayol. Mathias, reste avec nous. Et on est avec Jean-Charles Orioli et Pierre Bernard. Mathias, qu'est-ce qui a changé au RCT depuis la défaite en barrage la saison dernière face à La Rochelle?
Il y a beaucoup plus de constance dans l'effort, il y a un groupe plus homogène qu'est-ce qu'il y a pu avoir dans les années passées. Il y a des jeunes qui ont su élever leur niveau, je pense notamment à Matteo Le Corvec, à Jules Coulon, à Mathias Alagahu qui est carrément devenu un titulaire. C'est notamment dans la constance de l'effort. On le sait, le top 14 est très long et Toulon cette année a su montrer pendant trois quarts de cet exercice était dans le match avec Toulouse et avec l'Union Bordeaux-Bègles. Donc c'est quand même une progression notable. Il y a certes cet accro en Champions Cup, mais
au-delà de ça... Mais cet accro, est-ce qu'il a fait mal? Et qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines, Mathias Merlot?
Terriblement, il a fait mal parce que honnêtement, il se voyait aller très très loin dans cette compétition. C'était un match, honnêtement, c'était la plus belle ambiance à Mayol depuis 5-6 ans au bas mot, et ce match il a été terrible par le scénario hein. ça se joue à une pénalité de Thomas Ramos à la dernière seconde, même si Toulouse ce jour-là méritait sa victoire, notamment parce qu'ils avaient maîtrisé leur sujet, mais ils avaient tellement cru à cette victoire face à Toulon, à Toulouse, les Toulonnais, que ça leur a fait mal, un peu à l'image de ce barrage perdu face à La Rochelle la saison dernière, sauf que cette fois il y avait des matchs derrière, et donc il y a eu des têtes à laver, à nettoyer, cette déception à digérer, et ce qui a fait que cette fin de saison est difficile pour Toulon avec beaucoup de défaites hein, puisque seulement 2 victoires sur les 6 dernières journées de top 14. Mais là cette fois c'est les phases finales, cette fois ils savent qu'ils passent par ce barrage à Mayol, et cette fois les Toulonnais ils ont l'air beaucoup plus à même de répondre à ce match couperet face au Castres Olympique.
Pierre Bernard, est-ce que une dynamique comme ça un peu je dirais pas négative mais poussive en fin de saison, est-ce qu'on peut la balayer parce qu'on change de compétition, on passe aux phases finales?
Je pense que c'est clairement un tournant, je vais dire, dans le projet que Pierre Mignoni a mis en place à Toulon. Il s'attendait à passer ce barrage de coup d'Europe. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça leur a mis vraiment un coup de moins bien. Après, ils vont avoir une cicatrice. Donc, s'ils arrivent à passer au-dessus et à gagner ce soir, je pense qu'ils seront très dangereux pour les demi-finales.
Jean-Charles?
Oui, après voilà, c'est une nouvelle compétition, on remet les compteurs à zéro, il n'y aura pas de points d'avance ce soir pour Toulon, donc voilà, les deux équipes partent du même point, et voilà, c'est une nouvelle dynamique à mettre en place pour les phases finales. Puis effectivement, comme Pierre le dit, je pense que si Toulon passe ce match-là, ils ont quand même un paquet d'avant
qui est assez solide, une charnière qui peut être performante. Derrière, ça décane. C'est, ils ont un bel effectif. Alors après, cette année, on les a pas vus vraiment à 200%. Donc voilà, c'est le moment de... C'est le moment d'accélérer, c'est le moment de que les joueurs, les leaders prennent leurs responsabilités, qu'ils soient bons dans ces matchs-là. Je pense que c'est surtout ça qu'attend Pierre Minuit, c'est que ces joueurs, ces leaders prennent leurs responsabilités et soient bons ce soir.
Ouais, ça c'est un point important. Effectivement, qui est le leader de jeu de cette équipe de Castres, quel joueur est le plus déterminant selon vous ce soir? Peut être le plus déterminant selon vous, Pierre Bernard?
Sur un paquet de matchs cette année, il a été décisif, il est remplaçant ce soir, mais Jérémy Fernandez, je le trouve sur une saison très complète. C'est lui qui les qualifie sur le match contre les Benetton Trévise. Il les a menés d'une main de maître, donc je pense qu'ils ont mis un peu Santiago Arata pour dynamiser le début du match et après avec la rentrée de Jérémy qui est un second buteur aussi, ça peut être extrêmement déterminant.
Jean-Charles, est-ce qu'il y a un Castrais qu'il faut surveiller en particulier?
Pas particulièrement, parce que la vraie force de ce Castres olympique, moi je trouve que c'est son collectif, c'est son âme. Donc et puis c'est leur force. C'est difficile de sortir un top joueur qui sortirait du lot de ce groupe.
Ah, c'est un collectif,
ça montre bien,
hein,
ça montre bien la force de leur collectif. Donc moi c'est une équipe qui me plaît de suivre parce que c'est une équipe qui a beaucoup d'âme, qui lâche pas et ce soir ça va être un gros match pour je pense que c'est le plus mauvais tirage que pouvait avoir Toulon sur un quart de finale à domicile. Parce que Castres se nourrit de ces matchs-là, ils les aiment, ils ont l'expérience de ces matchs-là et voilà, ils sont jamais aussi bons que quand ils sont outsiders et qu'ils sont que personne parle d'eux. On les a vus plusieurs fois, après moi il y a 2-3 joueurs que bien sûr que j'affectionne particulièrement, il y a Dumora, il y a le petit Figuré, donc c'est un beau groupe avec quelques très bons joueurs et parfois même un peu sous-côté.
Ouais, ça c'est intéressant parce que quand on écoute justement cette semaine en conférence de presse Florent Van Verberghe, pur Toulonnais, il évoque la façon dont le CO s'est préparé et ils ont pas l'air d'avoir vraiment peur, notamment de l'ambiance, du décor Mayol et de ce fameux pilou-pilou. Écoutez-le, c'est Florent Van Verberghe cette semaine en conférence de presse, montage Quentin Fredon.
Je sais pas si ça a vraiment beaucoup d'effet, on est prêt au pilou-pilou, j'aurais les frissons comme ça c'est sûr, mais je sais pas si ça a beaucoup d'effet. Honnêtement, il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de pression. C'est un match de barrage. On va essayer de mettre le contexte de côté et de même s'en servir. Franchement, on va essayer d'en profiter et que ça nous donne de l'énergie à nous aussi.
C'est intéressant, Jean-Charles, vous évoquiez que c'était probablement le pire tirage pour Toulon d'avoir le Castres olympique. Est-ce que c'est votre avis aussi, Pierre Bernard?
Oui, bon après Castres c'est jamais un très bon tirage pour personne. Après de toutes les équipes qui sont qualifiées, je pense que Clermont était très dangereux aussi hier soir. Ils ont été bien canalisés par les Bayonnais, donc les 6 qui sont qualifiés sont quand même ils ont tous quand même fini la saison la plus régulière de top 14 pour avoir cette place là, parce que quand on voit surtout les non qualifiés, on voit la qualité de jeu que Castres a pu avoir cette année.
Ouais, Mathias Merlot, comment ça a été perçu quand à Toulon on a appris que l'adversaire serait Castres?
Il n'y a pas eu à ce stade-là de la saison, il n'y a pas un adversaire qu'on a envie d'affronter, donc Castres, Clermont ou un autre, c'est un peu la même chose hein, pour Pierre Mignoni. À partir de ce moment, voilà, il n'y a plus de filet, il faut gagner tous les matchs pour aller au Stade de France et soulever le Brennus. Donc Castres ou pas, ils en font pas un monde, les Varois, surtout que c'est plutôt un bon souvenir hein, parce que c'est le dernier barrage remporté ici même à Mayol, c'était en 2017, c'était un match serré hein, le RCT s'était imposé 26-22 avec un exceptionnel Afeni, donc c'est plutôt un bon souvenir pour les supporters varois. Après voilà, Castres, vous l'avez dit hein, ça reste une équipe solide, habituée aux phases finales, habituée à ses barrages, mais on va dire que Toulon n'en fait pas non plus un monde et quand même est sûr de sa force après sa belle saison top 14.
En tout cas, on sent que Toulon arrive quand même avec quelques certitudes malgré la période un petit peu difficile de ces dernières semaines. Merci beaucoup Pierre Bernard. Merci beaucoup Jean-Charles Aurioli. Un petit pronostic, allez, on s'y risque pour ce soir. Est-ce que vous avez un score à nous partager, messieurs?
Allez, Pierre, 26-22 Toulon.
Allez Pierre. Comment?
26-22 Toulon.
26-22 Toulon, Jean-Charles.
21-18.
21-18 pour Toulon, j'imagine. Bah écoute, c'est noté. On va noter, tiens. On a l'habitude de noter toujours les pronostics. Donc on va noter 26-22 pour Pierre Bernard et 21-18 pour Jean-Charles Aurioli. Merci beaucoup messieurs, bon match. Et c'est toujours merci un plaisir beaucoup de vous avoir sur Sud Radio. Dans un instant, c'est le match, c'est le grand match de ce week-end. Toulon face à Castres. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai.
De prime abord, personne ne déprime à l'idée de recevoir une prime. En prime, une prime, c'est une bonne nouvelle.
En ce moment, chez Nissan, la très bonne nouvelle, c'est la prime à l'hybride jusqu'à 7000 euros. Oui, 7000 euros. Pendant les jours hybrides Nissan, ne manquez pas cette prime exceptionnelle sur tous les crossovers hybrides Nissan Juke, Qashqai et X-Trail. Rendez-vous vite en concession Nissan pour en profiter.
Nissan.
Remis jusqu'à 4000 euros sur Juke Hybrid, 5000 euros sur Qashqai et 7000 euros sur X-Trail 9, identifié en stock jusqu'au 30 juin par rapport au prix au 1er mars. Détail Nissan.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Sud Radio Bordeaux 106 et en DAB+.
Sud Radio.
Dans les années 60, la France construisait un avenir plus ouvert. Révolution musicale, conquête spatiale, émancipation des femmes. En 2025, Renault remet la liberté sur la route avec nouvelle Renault 4. Design emblématique, habitabilité légendaire, désormais 100% électrique et ultra connecté. Découvrez Renault 4 E-Tech électrique, borne de recharge offerte. Portes ouvertes du 12 au 16 juin. Valeur borne 990 euros hors taxe, hors installation pour forfait borne plus installation. Offre à particulier du 1er au 30 juin. Conditions Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Travailler avec une personne de plus de 50 ans? Quelle idée!
Ben moi, ça a été la réponse à tous mes problèmes. Ça fait 11 ans qu'Isabelle travaille dans mon entreprise et c'est l'employée la plus fiable. Elle se forme en continu et c'est elle qui s'y connaît.